Nous pouvons être assurés, chers frères, sœurs et amis qui êtes ici, et nous pouvons partager cette grande assurance que la Bible nous apporte vraiment le message de Dieu, et que ce message est un message de l'amour de Dieu. Dieu, selon son amour, bien sûr, veut nous veut conserver ses créatures, les hommes. Il ne veut pas qu'ils meurent, c'est exprimé par un prophète, le prophète Ézéchiel. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que le pécheur meure, c'est qu'il vive. Mais, bien sûr, il y a des lois à la vie. Et ce n'est pas une époque scientifique et technique, technicienne comme la nôtre qui peut mettre cela en doute. Il y a des lois partout, on en a découvert dans la matière. Tous les matériaux, quels qu'ils soient, obéissent à des lois et ont des propriétés qui les lient et qui assurent d'ailleurs leur maintien dans l'existence. Eh bien, il en est ainsi, bien sûr, de la vie. Il y a des lois qui supportent la vie. Nous allons lire dans le prophète Jérémie, au chapitre 17, où nous verrons l'exposé très simple de la grande loi de la vie. Chapitre 17 et verset 5 de Jérémie, prophète Jérémie. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur, il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Comme une perdrix qui couve des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter, et à la fin, il n'est qu'un insensé. Il est un trône de gloire élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire, toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel. Tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Amen. Amen. Voici une parole extrêmement simple, claire, que nous délivre ici un des prophètes d'Israël. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, c'est-à-dire qui ne fait que ce qui se présente à sa pensée, que les ne satisfait que les désirs qui montent en lui. Il n'écoute rien, il ne prend raison de rien à l'extérieur de lui-même, il fait son bon plaisir, il accomplit sa propre volonté. Or cela, ça a été le péché de Satan, qui a pris sa volonté pour celle de Dieu. Alors cet homme-là est maudit, non pas que Dieu désire lui nuire et lui faire du mal, mais il est nécessairement maudit parce qu'il ne participe pas. Il ne peut pas participer à la bénédiction de Dieu. C'est en quoi il est maudit? Il aura du malheur, en effet. Il est écrit ici, il est comme un misérable, c'est-à-dire comme quelqu'un qui est dans la misère. Comme quelqu'un qui véritablement ne peut toujours que goûter la misère dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur, il l'attend toujours, il espère le bonheur, mais ce bonheur ne vient pas, lui échappe constamment. Béni au contraire soit l'homme. Ah, l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Cet homme qui, loin de s'arrêter à ses propres pensées, loin de prendre sa propre volonté comme une ligne de conduite unique, s'informe. Il s'informe de ce que Dieu a dit, de ce que Dieu, son Créateur, demande de lui, attend de lui, et, bien entendu, il accomplit cela. Il désire accomplir la volonté, non pas de l'homme, mais de son Dieu. Et il prend son Dieu, et bien entendu la parole de son Dieu, comme principe d'avenir, comme principe d'espérance. Et c'est alors que cet homme est béni. Dans ce passage, le prophète nous montre aussi ce que Dieu pense du cœur de l'homme qui s'est séparé de lui dans le jardin d'Éden, du cœur de l'homme qui ne veut pas vivre avec son Dieu, son Créateur, qui veut vivre tout seul, séparé de Dieu. Eh bien, ce cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, ce qui veut dire il est toujours enclin au mal. Qui peut le connaître? C'est vrai que l'homme lui-même ne connaît pas le fond de son cœur naturel et ce qui peut être là, caché dans son cœur, ce que son cœur peut lui faire faire. Mes amis, j'ai connu des circonstances extrêmement tragiques au cours desquelles le fond du cœur de l'homme c'est en effet dévoilé. Je puis vous dire que dans les années très difficiles que nous avons vécues en Algérie avant l'indépendance, c'est-à-dire avant l'année 1962, mettons au cours des années particulièrement 59, 60, 61, il y avait des hommes qui était pourtant apparemment extrêmement tranquille, paisible, incapable de faire du mal, pensait-on, et qui pourtant, appartenant à certaines ligues qui se proposaient de tuer, décidaient froidement la mort de certains autres et faisaient exécuter d'autres hommes. Nous avons vu cela, j'ai vu tuer dans la rue, tuer sans crainte aucune des gens qui portaient une mitraillette en bandoulière et puis apercevaient de l'autre côté un homme ou attendaient un homme et tiraient dessus et s'en allaient tranquillement. Mes amis, et c'était pas des grands bandits. Il y a eu là des hommes ordinaires, disons, des hommes qui, pendant bien des années, peut-être, avaient rempli paisiblement un emploi dans la société, étaient honorablement connus. Eh oui, oui, chers amis, j'ai vu une jeune femme un jour pleurer et se lamenter parce que elle avait vu que son mari appartenait à une de ces ligues et que son mari avait participé à des décisions de meurtre. Ah, chers amis, moi je vous assure que dans des circonstances comme ça, j'ai donné raison vraiment à ce prophète Jérémie. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Et chers amis, pour que l'homme vive, il faut que son cœur soit précisément changé. Vous voyez, moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur et je sonde les reins. Et c'est l'Éternel qui, dans son amour, nous informe, nous avertit que lui seul peut changer le cœur de l'homme. Einstein, ce savant bien connu, disait que l'on peut changer la nature du plutonium, mais qu'il est impossible de changer le cœur de l'homme. Vous voyez, il s'était aperçu lui aussi de cela. Il faut le savoir, chers amis, nous portons la chute, toutes les conséquences de la chute en Éden, nous les portons en nous, et notre cœur naturel est porteur de ce qui, comme le Seigneur Jésus l'a si bien dit, de ce qui nous souille, de ce qui nous fait commettre le mal et le péché. Et nous sommes tous pareils, tous. Il y a un psaume qui dit par exemple, ceci c'est le psaume 14, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Pas même un seul qui fasse le bien. Et cela, c'est un jugement de Dieu, non pas un jugement qui arrête définitivement la résolution de Dieu, puisque Dieu, au contraire, a résolu de sauver l'homme. Mais Dieu qui voit, qui sonde les cœurs, voit l'homme ainsi. Et je puis vous dire, et je viens de vous dire tout à l'heure, que dans certaines circonstances, l'homme se révèle comme un loup. Il y a en lui véritablement ce ferment terrible qui le pousse au mal et à la méchanceté. Et cela peut aller plus loin qu'on ne pense. Il faut donc que le cœur de l'homme soit changé. C'est bien pourquoi, ici, dans cette prophétie de Jérémie, nous pouvons lire aussi « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. » « Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. » Tu es ma gloire. L'homme a besoin d'une gloire. L'homme a été créé pour être promis à la gloire. L'homme a été couronné de gloire. Il a été couronné de gloire. Le psaume 8 nous le dit. Et Dieu avait mis tout sous ses pieds. Il lui avait donné domination sur cette planète tout entière, une domination par des moyens que nous ne pouvons pas imaginer maintenant, des moyens surnaturels. L'homme était un grand auxiliaire de son Créateur Dieu, tant qu'il restait attaché à son Dieu et à la parole de son Dieu. Mais vous savez que le drame, c'est formé dans le jardin d'Éden, l'homme a désobéi, l'homme a rejeté son Dieu. Mais il était promis à la gloire, et c'est pourquoi, dans ce cri qui est lancé vers Dieu, « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri, sauve-moi, et je serai sauvé », il est aussi dit, « Car tu es ma gloire, car il faut, Seigneur, que je retrouve cette gloire que tu as destinée à l'homme. » Et cette gloire, dans cette gloire, savez-vous ce qu'il y a, mes amis? Il y a l'image de Dieu. L'image de Dieu. Nous portons tous une image. Tous une image. Ça, c'est de la loi aussi de la vie. C'est une loi qui est bien connue des savants. Elle s'appelle la continuité génétique. C'est-à-dire qu'une espèce vivante, n'importe laquelle, prenez un animal, un poisson, prenez un oiseau, prenez une plante, cet être vivant, que peut-être ou la plante ou l'animal, ressemble à d'autres êtres vivants qui ont vécu avant lui et qui l'ont engendré, à ses parents. Il ressemble à ses parents. Nous portons tous, par conséquent, une image. Et lorsqu'on lit les premières pages de la Bible, lire la Bible, bien entendu, avec foi, et même avec amour, car c'est le livre de Dieu, eh bien, qu'apprend-on? C'est qu'après la chute dans le jardin d'Éden, Adam et Ève eurent un fils, et il était à la ressemblance d'Adam. Et il était à l'image d'Adam, à sa ressemblance, à son image. Au lieu d'être à la ressemblance et à l'image de Dieu, il était à la ressemblance et à l'image de quelqu'un qui s'était séparé de Dieu. Voilà pourquoi, comme le dit l'apôtre Paul, le péché est entré dans l'humanité par un seul homme. Oui, le péché s'est transmis par cette loi que j'appelais à l'instant de continuité génétique, qui veut que les enfants ressemblent à leurs parents. Eh bien, non seulement cette ressemblance particulière, mais ils sont des hommes de même sorte, de même nature que les parents. C'est une loi générale, cela, dans toute la création de Dieu. Alors, il faut que le Seigneur éternel nous sauve, nous guérisse. Et, mes amis, ici, la sagesse sur cette terre, et l'on peut dire la vraie sagesse, la vraie intelligence, c'est de dire cela, guéris-moi, éternel, et je serai guéri, sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Et nous allons maintenant alors nous reporter dans la seconde grande partie de la Bible, le Nouveau Testament, l'Épître aux Romains, chapitre 10. Et nous allons faire une autre lecture ici, chapitre 10, à partir du verset 8. Que dit-elle donc? Il s'agit de la parole de Dieu. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, c'est-à-dire entre le juif et le païen, n'importe quel autre homme qui ne soit pas juif. Aucune différence, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé. Ah, chers amis, voilà la réponse à cet appel que, pour bien des hommes, Jérémie lançait vers Dieu. « Oh, guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. » Voici la réponse. La parole de Dieu, la parole créatrice, la parole qui peut te changer, et qui peut changer ton cœur, qui peut te donner maintenant la vie véritable, la vie éternelle, dans toute sa puissance. Eh bien, cette parole qui a été annoncée par le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, où est-elle? Elle est près de toi. Elle est près de toi. Si ton cœur désire être sauvé, si tu désires être guéri, et si tu veux en effet, parce que tu crois que c'est foncièrement vrai, si tu veux un jour entrer avec tous les élus dans la gloire de Dieu, alors écoute la parole que le Seigneur Jésus lui-même a prononcée. Il a dit en termes droits, très simples, « Celui qui croit en moi ne vient pas en jugement, mais il est passé directement de la mort à la vie. » Il faut croire cela. Ça, c'est la parole de Dieu annoncée par le Fils. Dieu a parlé dans les anciens temps par ses serviteurs, les prophètes, mais dans les temps de la fin, dans les temps de l'Église, qui sont les temps de la fin, il a parlé par le Fils. La parole donc de Dieu s'est faite entendre par le Seigneur Jésus, et cette parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi, c'est-à-dire c'est la parole de Dieu qui te demande une chose, la foi de ton cœur. C'est la parole de la foi. Ce n'est pas une parole complexe, ce n'est pas quelque chose de difficile que Dieu te demande, la foi de ton cœur. Et Dieu dit, j'ai mis dans ton cœur la possibilité de la foi, j'ai mis un sens spirituel, il est là, placé dans ton cœur, la pensée de l'éternité, dit l'Écriture, est là en toi et tu peux exercer la foi, tu peux croire. Laisse de côté tout ce qui t'empêche de croire. Abandonne vraiment tout ce qui te tiraille, tout ce qui te lie, tout ce qui te retient. Si c'est ta raison, fais la taire. Pense que Dieu, lui, est bien au-dessus de ta raison, et que ce qu'il te dit a bien plus de valeur que ce que ta raison peut te dire. Si c'est le monde, ne t'occupe pas du monde. Nous avons lu tout à l'heure dans le prophète Jérémie que les noms de ceux qui abandonnent l'Éternel seront écrits sur la terre. Ce qui veut dire, en quelque sorte, si vous voulez, qu'ils seront écrits comme sont écrits dans un cimetière, sur des pierres, les noms de ceux qui sont morts. Alors, ils seront écrits sur la terre, et ils suivront le destin de cette terre, qui va être entièrement purifiée par le feu, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas être sauvés. Il y a un autre lieu où notre nom peut être écrit. C'est un certain livre dont nous parlait déjà Moïse, dont parle l'Écriture, c'est le livre de la vie, et le livre de la vie de l'agneau, de Jésus-Christ, et dans ce livre, ton nom doit être écrit là. C'est là que ton nom doit être écrit. S'il est écrit en bas, sur la terre, eh bien, tu ne seras pas sauvé. Ton nom ne peut pas être là-haut et être ici en bas. Ton cœur ne peut pas être attaché à la terre et être en même temps dans le ciel. Il faut choisir entre les deux. Et la foi est déjà un choix, une option. La parole de la foi, c'est la parole qui te demande de choisir librement. Librement, tu choisis. Mais choisis la vie, comme dit le Seigneur. Choisis la parole de vie, choisis alors la parole de ton Seigneur, de ton Sauveur Jésus-Christ, car il est celui de tout homme de foi. Choisis la parole du Seigneur Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. » Oh, chers amis, et il y a des paroles merveilleuses. Le Seigneur Jésus-Christ en a prononcé de ces paroles. C'est vraiment une joie pour le cœur du croyant que de les relire. En voici, par exemple, une autre qui est dans l'évangile de Jean. Celui qui vit, c'est-à-dire celui qui est présent sur la terre et qui croit en moi, et qui croit, bien sûr, comme nous allons le dire ici, qui croit du fond du cœur en moi, ne mourra jamais. Il ne mourra jamais. Crois-tu cela, Marthe, car c'était dit à l'une des sœurs de Lazare. Crois-tu cela? Croyez-vous cela, chers amis, que si maintenant vous vous attachez par la foi à Jésus-Christ, vous ne mourrez pas, la mort du corps n'étant pas la mort. Nous le disions ce matin. La mort du corps est un merveilleux commencement. Et à midi, les amis qui m'ont invité à leur table m'ont fait lire un livre sur Sébastien Bach, et qui est écrit par la propre épouse de Sébastien Bach, et qui était un homme de grande foi, ce grand musicien, ce grand auteur d'une musique qui aujourd'hui encore est considérée comme l'une des plus grandes musiques. Eh bien, Sébastien Bach s'attendait à la mort. Il était aveugle. Je ne savais pas, d'ailleurs, ce détail que j'ai lu dans le livre rédigé par son épouse. Il était aveugle. Et il composait cette musique vraiment qui est magnifique, qui est géniale, il faut bien le dire, n'est-ce pas? Et c'était un homme de grande foi, très attaché à son Seigneur Jésus, et il savait, il proclamait que le meilleur c'était d'être avec lui. Il s'attendait à partir, et il croyait que, à sa mort, il aurait une part bien plus grande que celle qu'il avait pu goûter sur la terre. Il attendait avec sérénité, mais aussi avec joie, le jour où il quitterait cette terre, serait dépouillé de ce corps mortel pour aller avec son maître. Et alors, ce que j'ai relevé, qui est très intéressant, c'est que dans les derniers jours de sa vie sur la terre, le Seigneur qu'il aimait tant, ce Seigneur Jésus si puissant qu'il aimait tant, lui a donné un signe magnifique, un signe de son amour et un signe selon lequel il obtenait, grâce à sa foi, la plus haute certitude qui soit, qu'il était agréable à Dieu et qu'il allait en effet retrouver son Seigneur. Alors qu'il était aveugle depuis je ne sais combien de temps, mais longtemps, depuis longtemps, soudain, peu de temps avant sa mort, la vue lui fut donnée. Il vit sa femme, il vit d'autres personnes, il put voir, on lui présenta des fleurs, il vit, le Seigneur lui donna la vue avant de le prendre et de l'enlever comme signe de sa grâce et de son amour. Chers amis, nous voyons par conséquent que ce que le Seigneur véritablement attend de nous, c'est que selon la foi, par le moyen de la foi, nous venions à lui. Il est notre Sauveur, notre Seigneur, Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu, que nous venions à lui. C'est ce que Dieu nous demande, c'est la parole de Dieu qui nous invite à cela, à nous abandonner à lui, car il a la puissance, lui, de nous faire vivre. Il est celui qui était mort, il a en effet été plongé dans la mort, Il est entré dans le sépulcre et il est ressuscité. Il est ressuscité. Et alors le Seigneur a pu proclamer devant Jean, voilà, j'étais mort et maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Vivant au siècle des siècles. Pour quoi faire? Pour entraîner tous les hommes de foi, tous, en aussi grand nombre qu'ils viendront avec la foi du cœur, pour les entraîner dans l'éternité glorieuse. Car tu es ma gloire, dans l'éternité glorieuse. J'en reviens à ce que dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, où nous venons de faire une lecture. Il nous dit, la parole de la foi, c'est celle que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, qu'il n'est pas resté prisonnier de la mort, mais qu'il y est passé pour expier le péché des hommes, et qu'il en est sorti par la puissance de Dieu en résurrection, tu seras sauvé. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Si tu crois dans ton cœur, c'est-à-dire non pas croyance, cette foi qui ne serait qu'une croyance, et qui nous ferait peut-être plus par raison que autrement accepter les vérités évangéliques, et notamment la mort expiatoire de Jésus et sa résurrection. Non, il faut que ça sorte de ton cœur. Il faut que tout ton être soit associé à cette foi. Il faut véritablement que tu t'abandonnes à Jésus-Christ, car attention, il va te saisir. Toi, tu vas le prendre par la foi, et lui va te saisir. Et il va s'établir entre lui et toi un lien vivant. Tu vas être lié à Jésus. Étant lié à Jésus, tu vas être lié à ton Dieu. Et comment pourrais-tu mourir si tu restes lié à lui? C'est pour cela, celui qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. De cette foi qui unit au Seigneur Jésus, on ne peut pas mourir quand on est uni au prince de la vie, comme il est appelé dans l'Épître aux Hébreux. Alors, croire de son cœur et confesser de la bouche, c'est-à-dire proclamer. Parce que quand on croit vraiment du cœur, on ne peut pas s'empêcher de dire « J'ai trouvé un sauveur merveilleux ». C'est ce que nous exprimons dans nos chants. « J'ai trouvé mon Seigneur. J'ai trouvé celui qui me fait vivre. J'ai trouvé celui qui m'arrache à la mort, qui m'arrache à mon péché, à moi-même. Je l'ai trouvé. » Alors on confesse le Seigneur de sa bouche, un Seigneur crucifié pour que le péché soit détruit et ressuscité pour que nous vivions de sa vie. On confesse cela, on le proclame, c'est le témoignage spontané qui sort de la bouche de l'homme qui a une foi joyeuse et qui vient de rencontrer son Seigneur Jésus. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est-à-dire à la justification. Ce que fait le Seigneur en pardonnant les péchés, c'est de justifier l'homme devant Dieu. Il n'est plus séparé, il n'est plus cet homme égaré, cet homme révolté contre son Dieu. Il est au contraire cet homme réconcilié avec son Dieu par une justification. On parvient à la justice de Dieu, chers amis. Tout le monde devrait savoir cela. La justice de Dieu supporte le gouvernement, c'est-à-dire l'existence de tout l'univers. Que cette justice soit déréglée, par exemple, atteinte par quelque chose, et l'univers est bouleversé, et l'univers va à la mort, au néant, à la destruction. Cela est exprimé dans la Bible, où, qui nous dit que Dieu règne par sa justice. La justice et l'équité sont la base, le fondement de ton trône, c'est-à-dire de ton règne, du règne de Dieu. Alors, on parvient à cette justice. Vous savez, quand un homme parvient par Jésus-Christ à cet état de justice, de justification, eh bien, la justice de Dieu, qui elle est inflexible, il faut qu'elle le soit, absolument inflexible. La justice de Dieu dit, ah, la parole de Dieu ne peut pas reconnaître un coupable pour innocent, un pécheur pour innocent. Mais maintenant, couvert que tu es du sang de Jésus-Christ, couvert des mérites de ton Seigneur et de Sauveur, tu es innocent, alors tu dois vivre. Et c'est la justice qui précédemment disait au pécheur, tu dois mourir, dit au pécheur qui au contraire est innocenté par le sang de l'agneau, lui dit maintenant, tu dois vivre. Il faut que tu vives maintenant. Cette même justice qui supporte le grand ordre universel de Dieu. Et puis, si tu confesses, alors de ta bouche le Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, à la vie, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus, ne sera pas trompé, ne pourra pas venir là vers encore une des illusions, elles sont si nombreuses, et qui ont trompé les hommes vers une illusion. Non, cette fois-ci, c'est vers la certitude que tu vas, si tu crois, si tu invoques le nom du Seigneur Jésus, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et ici, Seigneur, il s'agit de Jésus. Et l'apôtre Paul se sert ici d'une citation du prophète Ésaïe dans laquelle il y a le mot de Yahvé dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? C'est une citation que l'apôtre Paul emprunte à Ésaïe, et je répète, dans cette citation, il y a le mot Yahvé qui veut dire l'Éternel et qui veut dire Dieu, si bien que ici, Seigneur est équivalent de Yahvé dans le prophète Ésaïe qui est cité, si bien que cela veut dire que Jésus est lui-même Yahvé, qu'il est Dieu, qu'il est l'Éternel. Et c'est lui qui est venu, lui qui est venu comme un homme au milieu de nous, lui qui est venu dans cette nature humaine qu'il a prise au milieu des hommes, venu mourir pour nous libérer du péché et de la mort. Mes amis, ces choses sont merveilleuses, considérables. Et maintenant, nous avons tous en main la responsabilité de notre destinée. Le Seigneur nous appelle encore aujourd'hui à venir à lui. Obéissons-lui, venons si nous ne l'avons fait déjà, et joyeusement, avec tranquillité, avec assurance, répondons à l'appel du Seigneur. Oui, je viens, Seigneur, je viens vers toi, car je crois que tu es mon Sauveur, mon Seigneur, que tu es mort pour mon péché, et que maintenant tu me laves, tu me purifies, tu me procures la justice de Dieu, que son nom soit béni. Amen.